Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
On était c'est notre
amoureux, on se sentait pousser les
ailes. Ah bah on pose la question après. Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission. Il est l'heure, Monseigneur, pour la dernière émission de la quatrième saison. Donc, je suis aujourd'hui avec Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour à tous.
Et bonjour Marc.
Bonjour à vous.
Alors, pour clore cette quatrième saison, on a un invité de Marc, Jean Grimbert, qui est un écrivain et qu'on va pouvoir interroger sur son récit. Bonjour Monsieur Grimbert. Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Bon, Monsieur Grimbert, vous avez choisi avec moi le personnage mystère et on va devoir faire découvrir à nos chroniqueurs qui est le personnage mystère de la semaine. On va tout de suite commencer par un petit indice musical, un indice qui date de 1933. Hein, c'est pas notre habitude. Et le petit indice, c'est que notre invité mystère a reçu le baccalauréat cette année-là avec la mention passable. Ça, c'est juste pour la petite anecdote. On l'écoute tout de suite, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
L'hiver effeuille les arbres morts tandis qu'ils gèrent au dos. Puisque je cueille des fils neigeux dans tes noirs cheveux. Près de l'âtre qui flambe à grand feu, veux-tu que nous rêvions tous les deux? Reprenons, si tu veux, la chanson d'autrefois, comme on était heureux, on se baladait au bois, on n'avait ni java ni musette, et l'on vous appelait midinette. On avait l'omnibus et les frites à deux sous. Le dimanche, on prenait le bateau pour Saint-Cloud. On revenait gaiement, chantant à pleine voix. Et c'était la chanson d'autrefois. Notre jeunesse n'avait alors aucun souci des records. Et les prouesses des jours glorieux se faisait à deux, sans réclame en cachette à mi-voix, dans un gai pigeonnier sous les toits. Reprenons, si tu veux, la chanson d'autrefois. Le soleil radieux revenait chaque fois, au printemps mettre le ciel en fête, en été ranimer les guinguettes. À Samy, on disait, veux-tu vivre avec moi? On sera, tu verras, plus heureux que des rois. Je gagne à mon bureau 125 francs par mois. Mais c'était la chanson d'autrefois. Les jours de fête, c'était pas cher. Il y avait les cafés-concerts. Où les vedettes, chaque saison, lancez la chanson que tous en cœur à tous les échos. On chantait en prenant l'apéro. Reprenons, si tu veux, la chanson d'autrefois. Revivons tous les deux nos plus troublants émois. C'est tout notre passé de tendresse et tous nos souvenirs qui renaissent. On ne vivait peut-être pas mieux qu'à présent, mais on était heureux et on avait 20 ans. Je garde le bonheur de vieillir près de toi en chantant la chanson d'autrefois. Donc
c'était la chanteuse Fréhel avec la chanson d'autrefois, une chanson de 1933. Monsieur Grimbert, est-ce que ça vous évoque des souvenirs?
Je
ça m'avait des souvenirs, bien sûr. C'était Israël avec sa collègue Damia. C'était deux chanteuses réalistes qui ont précédé Edith Piaf. Voilà.
Bon.
C'est dans le même style.
Hein. Et oui. Bert Silva.
Oui, Bert Silva également. Bert Silva, ça date de 1900. Oui, c'est contemporain.
Voilà. Donc, c'est pas une programmation musicale qu'on a quotidiennement, je pense, sur Radio G, mais ça fait du bien de se rappeler un petit peu comment c'était il y a quelques temps. Monsieur Grimbert, on vous a au téléphone aujourd'hui pour nous parler du livre Une jeunesse fracassée. C'est un livre qui décrit votre mode de vie dans les années 50, alors que vous étiez VRP.
VRP débutant.
Et ça a son importance que vous soyez débutant à l'époque ou pas?
Oui, parce que c'était l'immédiate après-guerre. Et puis effectivement, nous avons subi des bouleversements durant la guerre. Enfin voilà, donc il a fallu pratiquement recommencer à zéro.
Oui, vous avez participé aux 30 Glorieuses finalement. C'est un peu grâce à vous qu'on a eu cette France reconstruite.
Ça a commencé un petit peu après.
Alors, pour nos auditeurs, Une jeunesse fracassée, d'ailleurs, on va peut-être citer tout de suite la maison d'édition.
J'ai d'encre.
Voilà, donc la maison d'édition J'ai d'encre. Donc, Une jeunesse fracassée dans la maison d'édition J'ai d'encre décrit la France des années 50 à travers tous vos voyages, on va dire, de vente. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai redécouvert parce que vous nous décrivez un monde qui n'existe plus. Et il y a 15 jours, j'étais avec ma maman en train de parler de l'apport de la modernité dans les maisons au début du XXe siècle. Et c'est exactement ce que j'ai lu dans votre ouvrage, par exemple dans l'électricité en tube.
C'est l'éclairage plus récent.
Voilà. Et c'est vrai que les tubes néons, ça a été un vrai progrès. Vous l'avez amené comme un service, mais les gens étaient habitués aux lampions, hein, c'est bien ça?
Oui, c'était ça, oui. Enfin, aux lampions, c'est-à-dire à l'éclairage normal. Et les ampoules traditionnelles.
D'accord.
Placer les ampoules traditionnelles. Et c'était le slogan, c'était la lumière du jour. Alors, il n'était pas tellement la lumière du jour, mais c'est une lumière différente de celle qu'on avait connue, en l'occurrence, ampoule normale.
Mes chers chroniqueurs, est-ce que ça vous a inspiré des choses, vos lectures?
Non, mais bonjour. Ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir justement aussi quand vous avez retrouvé vos notes, enfin quand vous avez décidé de les utiliser, elles étaient écrites comment? C'était dans des carnets, c'était de l'encre bleue, c'était avec les pleins et les déliés, tout ça.
C'était des feuillets épars, et que Armel Chassagne m'a considérablement aidé à les regrouper et puis à en faire des textes cohérents.
Et tu les avais écrits comment? À la machine à écrire.
Oui, oui, oui.
C'est pas l'ordinateur de là, quand
même. Sur une machine, pendant ma pré-retraite, sur une machine à traitement de texte.
Ah oui. Alors, moi, ce qui nous a un petit peu surpris, on en discutait là avant de nous avoir au téléphone, c'est le langage que vous utilisez, parce que vous nous avez fait découvrir du vocabulaire des années 50. Et c'est vrai qu'on s'instruit beaucoup à votre lecture et on a apprécié de découvrir un univers différent de celui d'aujourd'hui.
Je n'ai rien d'un pédagogue.
Non, mais par contre, vous avez tout d'un écrivain. Parce que moi, je trouve que c'est...
Vous êtes bien gentil de me faire ce compliment, mais bon...
Si, moi, je trouve... évidemment, il y a la richesse des mots, des mots d'ailleurs dont certains, on les a perdus de vue. Mais justement, je m'interrogeais sur votre histoire par rapport à, justement, l'accès à l'écriture. Est-ce que vous aviez... Comment c'est venu? C'était en autodidacte ou vous aviez fait des études ou...
Alors, je vais vous dire.
Oui.
Bon, ma famille a été bouleversée pendant la dernière guerre. Bon, j'ai commencé des études, je les avais reprises. Je ne suis pas allé plus loin que le bac. Hein.
Oui, ce qui est déjà pas mal.
Déjà pas mal
pour
cette époque. Oui. Pour l'époque, c'était bien.
Oui. J'ai passé
mon
bac en 46.
Bon. Et est-ce que, comme notre personnage mystère, vous avez une mention passable ou mieux?
Certainement la manche impassable, je ne me souviens pas avoir eu bien ou très bien.
Et c'était toujours en deux parties, quoi.
Si j'avais eu une mention élogieuse, je m'en serais souvenu.
Bon, dans tous les cas, je vous souhaite le même succès que notre personnage mystère, Monsieur Grimbert.
Sans prendre la parole, j'aurais voulu avoir une petite précision. Est-ce que vous avez été tenté dans votre livre d'utiliser les dialogues? Parce qu'en fait, il n'y a pas de dialogue. Mais je veux dire,
oui, non. Bah, c'est-à-dire que, bon, le dialogue, non, je n'ai pas été tenté par le dialogue.
D'accord. Non, mais je veux dire, ça ne me manquait pas hein, dans ce que j'ai lu. Alors, mais ce que je veux dire, c'est vrai que je me disais, est-ce qu'il aurait voulu reproduire des dialogues de mémoire comme ça?
Et alors, moi, ça m'a vraiment surpris parce que c'est un format littéraire bien singulier que vous avez, Monsieur Grimbert. Il y a des auteurs et des autrices très descriptives qui peuvent me fatiguer. Je pense à André Chédide qui va décrire jusqu'à la nuance du bleu dans le ciel et je trouve ça un peu pénible. C'est pas du tout ce que j'ai retrouvé dans vos lectures. J'ai trouvé que vous décriviez bien les lieux et surtout l'ambiance.
Oui.
Les relations entre les personnes, vous avez su trouver les mots pour hiérarchiser et puis finalement trouver toujours la juste place. Mais ça m'a laissé penser que vous étiez à l'époque très timide. Je ne sais pas si je me trompe.
Timide, pas particulièrement. Vous savez, on était dans ce petit groupe de représentants. C'était celui qui était le plus fanfaron.
pour le coup, on rentre dans les clichés de commerciaux et de VRP.
Les commerciaux et... Comme je l'ai écrit dans un mail que je vous ai envoyé, nous, c'était le début du renouveau du commerce. Parce que, après la guerre, évidemment, l'occupation, les boutiques avaient été désertées, il n'y avait plus rien. Il fallait reconstituer les stocks. Et j'ai vécu cette période de reconstitution des stocks. Et puis après, bon, sont venus les avancées techniques des Trente Glorieuses. C'est-à-dire que pratiquement, le 21e siècle a commencé en 1947 avec la découverte de transistors.
Mm-hmm.
Transistors libéraient la radio de la prise électrique.
On pouvait l'écouter dehors, quoi.
Voilà. C'était en 47 et en 57, 10 ans après, le premier satellite artificiel, qui a précédé tous les autres, bien entendu. Alors, en 47, transistors les Américains, en 57, les Russes avec le Sputnik.
Oui. Alors, dans votre livre, effectivement, vous décrivez le réapprovisionnement, on va dire, sur le territoire des produits. Mais ce que vous décrivez aussi très bien, qui colle à votre métier, c'est le service que vous rendiez aussi. Ben, ça a presque donné le commercial sympathique. Moi, j'ai retrouvé la paix avec les commerciaux. Généralement, j'ai une piètre estime pour certains prestataires. Aujourd'hui, ce serait plutôt ceux qui veulent nous vendre de la formation par téléphone. Mais effectivement, vous avez réussi à rendre le service très, très acceptable et au contraire bien utile et indispensable même.
C'est-à-dire, je suis de la génération d'avant Internet.
Oui.
Ce qui fait que Internet, bon, je ne comprends pas grand-chose. Hein.
Et vous l'utilisez malgré tout ou pas?
Non. Non, pour une raison très simple, c'est que malheureusement, je suis atteint d'une cécité partielle qui fait que je ne peux pas lire, je ne peux pas lire un texte. J'ai une prothèse de lecture, c'est un appareil qui me permet de... Je mets une page de livre, ça scanne la page, ça me la restitue en vocal.
D'accord.
Bon. Et après, tu utilises OK Google.
Oui, Google, bien sûr.
Quand même.
Donc, pour le coup, Internet vous rend quand même des services aujourd'hui.
Et voilà.
Mais je reviens là sur la vente. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que, bon, on parlait du commerce, Raphaël parlait de la vente, du commerce. Mais on vend pas des produits, on vend des relations humaines. Il me semble que ça, c'est quelque chose qui reste d'actualité. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était avant tout des rencontres. Et justement, vos interlocuteurs, c'était bon, on parle des stocks, mais vous vendiez donc des produits, c'était des grossistes, des magasins, quels étaient vos interlocuteurs de l'époque?
C'était, moi j'ai connu le petit épicier, le quartier, en blouse grise, avec son crayon derrière l'oreille.
Ah oui, c'est ça, oui, ça c'est d'accord.
Ouais, c'était le boucher, ça.
Et là, ça nous rappelle des souvenirs.
Et le magasin qui sentait la lessive. Et
tout ça,
la droguerie.
La droguerie,
c'est la droguerie, oui.
Pour le coup, effectivement, on se retrouve avec une lecture qui est très fluide. Moi, j'ai trouvé. Hein, je recommande vraiment aux auditeurs parce que on redécouvre un univers que, alors pour certains, vous avez connu. Pour moi, c'est le témoignage de ma grand-mère que je n'ai jamais eu. Voilà. Donc, c'est intéressant.
Ce livre est paru quand ?
Je me suis attaché à la fluidité du texte.
C'est ça.
Eh bien, vous avez réussi votre mission, Monsieur Grimbert. Très bien.
La plupart des anecdotes, ce sont des récits qu'on se communique à la table d'hôte.
Parce
que la table d'hôte, c'était à l'époque dans les auberges de campagne. L'un raconte son histoire, l'autre une autre histoire. Et ce sont des histoires que j'ai recousues les unes après les autres, que j'ai transcrites à la première personne, comme je vous ai dit, pour la fluidité du texte.
D'accord.
C'est parfaitement réussi.
Il est paru quand, le livre ? Il y a un mois à peu près.
Oui, à peu près. Oui, il est paru au début du mois d'avril.
Donc si nos auditeurs nous disent « Oui, je l'ai lu il y a 10 ans », c'est des gros menteurs. Hein. Bon, je vous propose de faire une nouvelle petite pause musicale autour de notre personnage mystère qui, alors là, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est né en 1914, voilà, et il a eu son baccalauréat avec la mention passable en 1933. Et alors, pour quelqu'un qui a eu une mention passable au baccalauréat, il a quand même obtenu le prix Goncourt en 1956. Voilà, je ne sais pas si ça va vous inspirer. Ah ben non, mais Jean-Jacques l'a déjà, c'est pénible à la fin. Donc on écoute tout de suite Gilbert Bécaud avec « Mes mains ». On l'écoute et on se retrouve tout de suite après.
« Mes mains » dessine dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi, cherchant un peu de joie. Mes mains se tendent en prière vers ton ombre légère, disparue dans la nuit. Mes mains, elles t'aiment à la folie, d'un amour infini, elles t'aiment pour la vie. As-tu déjà effacé ce passé qui m'obsède? As-tu déjà oublié que ces mains ont tout donner? Mes mains qui voudraient caresser un jour seront lassées d'attendre ton retour. Mes mains, elles iront te chercher là où tu t'es caché avec un autre amour. Mes mains, méprisant les prières, trembleront de colère et je n'y pourrai rien. Mes mains, pour toujours dans la nuit, emporteront ta vie. Mais puisque tu le sais, reviens, et tout comme autrefois, elles frémiront pour toi dans la joie retrouvée. Reviens, ne les repousse pas, ces mains tendues vers toi, et donne-leur tes mains.
Donc c'était une chanson de 1956, Mes mains, par Gilbert Bécaud. Est-ce que ça vous a plu cette chanson, Monsieur Grimbert ?
Je ne la connaissais pas.
Vous ne la connaissiez pas ? Bah voilà, je cherche toujours des petites pépites musicales et celle-ci, je l'ai trouvée très agréable à écouter au moins. Les chroniqueurs ont déjà trouvé notre personnage mystère. On va laisser un petit peu de suspense encore pour les auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le personnage ? Qu'il est né en Lituanie ? Voilà. Il était donc d'origine russe, une culture internationale. Voilà. Et il est, ça légitime un petit peu la mention passable au baccalauréat entre nous quand même. Moi, je ne pense pas que j'aurais le même résultat si j'allais en Lituanie aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitiez nous dire, Monsieur Grimbert, sur votre ouvrage, une jeunesse fracassée? Est-ce que il y a des choses qui... Et d'abord, est-ce qu'il y aura une suite?
Là, ce que j'ai voulu, parce que effectivement, j'étais absolument nul en maths. J'étais bon en latin et j'étais bon en français. Et effectivement, donc j'ai appris, j'ai eu un professeur de lettres particulièrement bon. Qui m'a dit comment articuler une phrase avec où placer l'adjectif, où placer le verbe, etc. Non. Et je m'en suis inspiré. Hein.
Mm. Et est-ce qu'il y aura une suite?
Il y aura une suite, hein. Ah, ça fait plaisir à entendre.
Non, c'est une question.
Elle lui demande.
Bah mince, je vais trop vite.
une suite à mon âge. Hein. Enfin, j'ai encore quelques feuillets qui pourraient faire... un ou deux récits, mais sans intérêt. Hein.
Oui. Alors, moi, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi vous vous êtes concentré sur les années 50 plutôt que sur d'autres épisodes de votre vie? Est-ce que les années 50 ont un écho particulier pour vous?
Ah oui, alors, c'est une très, très bonne question. Et les années 50, ce sont les années de l'immédiat après-guerre, les années de ma jeunesse, où j'ai vraiment peiné. Mais il a fallu, c'est ce qui m'a permis d'avancer, puis de faire ce que je pensais utile à ma carrière future.
D'accord.
Et je peux poser une autre question. Oui.
Pardon?
Vous avez fait ce métier combien d'années?
Alors, pratiquement, en tant que représentant, peut-être 5 ans ou 6 ans, et après, je l'ai fait... Pour mon propre compte.
Et vous vendiez quoi à votre compte?
Oh ben je vendais un petit peu de tout, des distributeurs automatiques, qu'est-ce que je...
Vous étiez un multicarte?
Voilà.
D'accord, bon.
Multicarte.
Alors, dans les questions que je vous avais posées, Monsieur Grimbert, c'était qu'est-ce qui vous manque des années 50 que vous aimeriez bien encore utiliser aujourd'hui?
Ah, ce qui me manque, alors, effectivement, je veux dire, ce qui me manque, c'est ma jeunesse.
C'est sûr. Oui, ben c'est ce qu'on se disait l'autre fois, on ne peut pas être et avoir été. Et vous avez la sagesse aujourd'hui, au moins?
Vous savez, la sagesse, comme on se dit quand on a mon âge, la sagesse, elle vient ex facto, hein, automatiquement, la jeunesse.
Bon.
Excusez-moi si je bafouille.
C'est pas ce que me donne l'image de tout le monde. Hein. Tout le monde en vieillissant n'est pas toujours très sage. Alors à l'inverse, qu'est-ce que aujourd'hui vous utiliseriez que vous auriez bien aimé avoir dans les années 50? On a parlé de OK Google tout à l'heure, mais c'était pas du tout approprié dans les années 50. Mais est-ce qu'il y a un objet?
Alors effectivement, donc avec la tablette ou le smartphone. J'ai accès à des... Pratiquement, j'ai accès à toute la connaissance.
Alors, ben, la communication, justement, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup lu dans votre livre. À l'époque, le seul moyen de communication instantanée, c'était le téléphone, pratiquement.
C'était le téléphone. Et puis, à l'époque, vous savez, quand on était sur la route, on correspondait en poste restante.
Oui.
Et c'est-à-dire que les instructions que nous recevions quand j'étais représentant de nos employeurs, c'était effectivement, quand c'était beaucoup plus long, c'était un courrier en poste restante, ou quand c'était plus bref, on était tenu à 8 heures du matin d'être à la poste et d'attendre la communication de l'employeur.
D'accord.
Et si on manquait la communication, bon, c'était la première fois. C'est un avertissement, la seconde fois un blanc, et la troisième fois le licenciement.
Ça rigolait pas à l'époque. Hein.
Oh là là.
Oui. Bon, c'était une autre organisation dans tous les cas, effectivement.
Voilà. C'était une organisation beaucoup, beaucoup plus dure et beaucoup plus disciplinée.
Alors après, avec une certaine liberté quand même dans vos tournées.
Oui.
C'est ce que je lis à travers vos temps partagés avec vos collègues VRP. Les moments de retrouvailles étaient assez légères, on peut dire.
Oui, voilà. On descendait pas dans les grands hôtels. On descendait dans les petits hôtels, les petites auberges de campagne qui sentaient la soupe aux choux, le chien mouillé et la cire passait en profusion sur les meubles du salon.
Ouais. Bon, les problèmes d'hygiène n'étaient pas les mêmes à l'époque. Hein. La répression des fraudes n'avait pas la même activité. on va faire une nouvelle petite pause, Monsieur Grimbert, pour écouter une nouvelle chanson qui sera un nouvel indice pour notre personnage mystère. Et là, j'ai envie de dire, beaucoup vont peut-être faire le rapprochement. Il s'agit d'une chanson de Michel Jonas, Les vacances au bord de la mer. C'est une chanson qui date de 1975. Et alors, il se trouve que notre personnage mystère a reçu le prix Goncourt pour la deuxième fois. Pas sous le même nom, parce que c'était interdit par le règlement, mais c'est le seul auteur actuellement qui a obtenu deux fois le prix Goncourt. Donc on écoute tout de suite Michel Jonas et Les vacances au bord de la mer. À tout de suite.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens, comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose, alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant, et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt. Sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus, alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même.
C'était donc Michel Jonas avec Les vacances au bord de la mer. Une chanson de 1975 où notre personnage mystère recevait le prix Goncourt au nom de Émile Ajar. Voilà, je ne sais pas si ça aide nos auditeurs, mais Émile Ajar, c'était le pseudonyme. Voilà, je ne sais pas pourquoi les artistes ont besoin toujours de travailler avec des pseudonymes.
Alors, le lien entre la chanson de Michel Jonas et Émile Ajar, c'est le roman pour lequel il a La vie devant soi et le thème. D'accord.
Alors, oui, c'était l'année, hein, 1975, c'est l'année du prix Goncourt.
Ah bon,
voilà.
D'accord.
Mais après, effectivement, on peut avoir d'autres lectures et faire des parallèles. Mmh. Monsieur Grimbert, on va écouter une petite chronique de Jean-Jacques qui nous retrouve toujours des petites pépites publicitaires. Donc, vous allez peut-être pouvoir réagir à ça et nous instruire aussi.
Oui.
Voilà. Jean-Jacques, je te laisse la parole.
Merci. Comme c'est l'été, on va bientôt tous et sans beurdoirer. Beurdoirer, ça, c'est pas un terme que Monsieur Grimbert utilise parce que c'est du patois saintongeais. Ça veut dire, on va donc s'en appliquer du dessus du crâne quand on a moins de cheveux, au moins plus de cheveux que moi, et jusqu'au bout des orteils. Et oui, c'est la crème solaire ou l'huile solaire. Là, vous allez entendre une réclame pour Ambre Solaire qui a été créée en 1935. C'est L'Oréal qui a eu l'idée de ce produit devenu quasiment un nom commun, comme la marque Frigidaire pour le réfrigérateur. Mmh. Ambre Solaire a été lancée sur le marché dans un premier temps pour les nouveaux touristes sur la Côte d'Azur, juste avant les grands départs des premiers congés payés de 1936, évidemment. Sur l'air du pont d'Avignon.
Sur le pont, Ambre Solaire, au soleil, nous irons, sans brûlure, nous brunirons.
Ambre Solaire, bruni sans brûlure, adoucit la peau.
Brunir, c'est plus d'actualité aujourd'hui. On se protège du soleil,
non,
plutôt. Hein.
C'est plutôt blanchir.
Monsieur Grimbert, ça vous évoque des souvenirs, cette publicité, cette première?
Oh là là. Quand on allait en vacances sur les plages, dans les années 50 ou 60, on arrivait sur la plage et il y avait cette senteur d'ambre solaire.
Bien sûr, bien sûr.
C'était ce qui caractérisait. C'était une odeur de vacances.
Oui, oui, moi aussi.
Bon, on va passer à une toute autre odeur puisqu'on va parler des vins de Saumur.
Ah, enfin un bon produit de chez nous. À boire avec modération, bien entendu. Les vins de Saumur.
En jour pur, en jour radié, on boit nature qu'on boit mousser. Mon verre de gaieté étincelle. En joue, tu fais la vie plus belle. En joue pur, en joue radieux. Vin de Saumur, régal des dieux.
On va quand même rappeler que l'alcool est à boire avec modération.
Absolument. Hein. Alors là, maintenant, on va soigner ça. C'est un véritable succès d'année de la partie des cartes de Pagnol, avec l'accent plutôt faubourien que méridional. Scénario approximatif pour vanter la petite pilule qui va tout de suite vous faire oublier vos excès, alcool ou bonne chère. Les réclames pour les pilules Carter ont souvent été des petites scénettes populaires. On va même jusqu'à nous expliquer scientifiquement comment c'est censé fonctionner. Pilule Carter.
Nous transportons à présent le micro dans un café. Un petit café où l'on joue aux cartes.
Tiens, installe-toi là. Julot arrive dans 5 minutes.
En tout cas, moi je t'avertis, si Julot continue à m'envoyer des bobards, je rends les cartes et je reprends mon chapeau.
Oh, voyons mon vieux, tu feras pas ça à un ami de 20 ans. Je reconnais que ces jours-ci, il se monte facilement. Mais faut pas dire, voyons, c'est un bon copain.
Mais c'est justement, mais pourquoi qu'il se soigne pas? C'est son foie qui va pas. On lui a déjà répété de prendre des petites pilules Carter pour soigner son foie.
Très juste. Si vous ne vous sentez pas bien, essayez les pilules Carter pour le foie, exclusivement végétales et douces. Elles vous garantissent l'afflux du plus vital des sucs digestifs, la bile. Quand ce suc digestif coule à raison d'un litre par jour, il nous permet de digérer nos aliments, arrête leur fermentation qui empoisonnait tout notre organisme et ramène la régularité. Pour tout le monde, la vie devient rose. Exigez bien les petites pilules Carter pour le foie.
Alors Jean-Jacques, si je peux me permettre, des publicités de 1 minute et 5 secondes, on n'en fait plus. Hein.
Et c'est pour ça que cette fois, j'en ai fait 4.
Non, mais par contre, moi, ce que je retiens de cette publicité, c'est l'histoire. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous... Moi, je m'intéresse à la publicité, mais sous l'angle de comment c'est fabriqué. Et actuellement, toutes les 95% des publicités, ce sont des petites histoires. Alors, c'est fait d'une autre manière, mais c'est le principe. Et pourquoi? Parce que l'histoire, c'est ce qui touche les gens. Mmh. C'est-à-dire que raconter une histoire, depuis qu'on est tout petit, le papa et la maman, ils nous racontent une histoire, et nous, l'être humain, nous sommes sensibles aux histoires. Donc, la publicité raconte moins comment c'est fait, pourquoi, etc., qu'elle raconte une histoire dont on se souvient.
C'est pour accrocher les gens.
Bien sûr, mais c'est ça qui accroche.
Comme je le disais, les pilules Carter, ils ont fait plein de scénettes comme ça. Alors j'en ai choisi une, c'est tout.
Et monsieur Grimbert, ça vous a rappelé l'ambiance des cafés et des collègues ou pas?
Ben, bien entendu.
Il y en avait qui étaient dans les excès ou vous-même peut-être?
Pilules Carter pour le foie, effectivement, on entendait ça à longueur de journée. Oui. Hein. Et auparavant, la publicité ne s'appelait pas la publicité, ça s'appelait la réclame.
La réclame,
et
voilà, bien
on est d'accord. On avait intitulé la chronique en début d'année « Quand on est poli, on ne réclame pas ».
Non, et au cinéma, c'était « La réclame Jean Mineur
». Bah oui.
Jean Mineur avec
le petit mineur qui le envoyait mineur. Son piolet dans la cible.
Il envoyait dans le mille.
Voilà.
Et une dernière publicité, Jean-Jacques ?
Alors, Vermifuge Lune. Ah, l'obsession de nos parents pour les vers solitaires et autres cochonneries qui pouvaient empoisonner le système, ou du moins la fin du système digestif de leur chère progéniture. Et c'est vrai que même nos cours de sciences naturelles ont nous parlé de l'ascaris, du ténia. À noter que le grand Claude Nougaro en a fait une chanson, souvenir probable de sa propre enfance, avec ses mots comme souvent des jeux de mots. Vermifuge Lune, est-ce à cause de ce vers, mi-refuge, mi-lunaire, que tu chantes sous ma plume, Vermifuge Lune?
Donnez donc à vos petits
Vermifuge Lune,
le sommeil et l'appétit,
Vermifuge Lune.
Plus jamais de tympanos, vos enfants gais et dispos,
pris en poudre ou en sirop, Vermifuge Lune.
Excellent.
Le bon Vermifuge Lune, le laxatif idéal de l'enfance.
Bah voilà, effectivement, je pense que tout le monde a été concerné un jour, hein, au moins. Ça fait partie des petites choses utiles malgré tout. Monsieur Grimbert, vous la connaissiez cette publicité aussi ou pas ?
Bien sûr. Mais la réclame la plus percutante, ça date des années 1920 ou 1930, ça représente quelqu'un agenouillé, en train de manger de la terre. Et le slogan, c'est « On creuse sa tombe avec ses dents
».
C'est une réclame d'avant la publicité.
Oui.
La publicité a été lancée par Publicis, avec son drugstore dans les années 60. Le drugstore qui était alors aux Champs-Élysées, pratiquement... Sur le pourtour de l'étoile.
Monsieur Grimbert, si vous avez du temps disponible, je vais vous embaucher en chroniqueur, moi. Hein. Vous allez nous apprendre plein de choses. On va revenir un petit peu sur le personnage mystère. Donc, il s'agit de quelqu'un qui a reçu deux fois le prix Goncourt. Le premier avec La vie devant soi. Et le deuxième, Émile Ajar. Est-ce que vous vous en souvenez ?
Oui, bien sûr. Et je me souviens aussi de cet auteur qui disait « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines.
» Belle formule.
Oui. C'est lui qui a dit ça ?
C'est lui qui a dit ça.
Ah, d'accord.
C'est Romain... Enfin, c'est...
Oui, vous pouvez le dire maintenant, on l'a trouvé. Là.
Bon, bah voilà, Romain Gary, c'est notre personnage mystère de la semaine. Un personnage, on va dire, riche culturellement.
Et compliqué.
Et qui a donné dans tous les registres, je crois. Il a été adapté au cinéma, il a été adapté... encore récemment, j'ai vu La vie devant soi, alors pas dans la version originale de 1977, adapté au cinéma, mais Sophia Loren l'a interprété dans une mini-série récemment. Et je vous invite à le regarder parce que c'est humaniste et dosé comme il faut. Voilà.
Enfin, ce personnage était exceptionnel parce qu'il était dans l'aviation de la France libre. Et donc, il réussit à sa vie, bien entendu. Il pouvait être descendu. Mais voilà, c'est-à-dire c'était un personnage multiforme. Mais c'est si on fait le fait qu'il était très attachant.
On va faire une dernière petite pause musicale avec l'indice de Romain Gary qui est décédé en quelle année, le savez-vous ?
Je ne me souviens pas.
Alors c'était en 1980, et en 1980, sur les radios françaises, on entendait William Scheller.
Il était marié, je crois, à Jeanne Siberg.
Oui, absolument.
Alors, Joker, j'ai pas fait attention à cette information-là.
Oui, oui.
Et donc, en 1980, on entendait sur les radios françaises William Scheller avec Fier et fou de vous. On l'écoute tout de suite et on se retrouve tout de suite après.
On pourrait Déjà quand elle voulait être écuyère, elle m'écrivait qu'elle n'était pas bien chez vous, qu'elle ne voulait pas risquer sa vie entière sur mon histoire qui ne tenait pas debout, voyez-vous. Je lui dis, il y a des gens sur terre qui dansent autour de nous. Moi, je ne vois rien, je suis fier et je suis fou de vous. Elle s'en fout. Je lui dis, il y a des gens sur terre qui chantent autour de nous. Moi, je ne vois rien.
C'était William Scheller avec Fier et fou de vous, une chanson de 1980 qui fait plaisir à entendre de temps en temps quand même aussi. Alors bah, autour de la table, on discutait pendant la chanson, les chroniqueurs sont plutôt fous de votre lecture, monsieur Grimbert. Alors pour nos auditeurs, on va rappeler le titre, la maison d'édition. Il s'agit d'une jeunesse fracassée par l'auteur Jean Grimbert et c'est paru aux éditions Jet d'encre. Je suppose qu'on le trouve un petit peu dans tous les réseaux de librairies, monsieur Grimbert.
Je l'espère.
Voilà. Bon, on va encourager nos auditeurs à aller aux librairies les plus connues d'Angers, à savoir la Sadel, la Richer, FNAC. La Fnac et les autres.
Il va y avoir bientôt Cultura dans la galerie de Géant.
Ah oui, voilà, et donc, autrement on peut l'avoir sur Amazon.
Et effectivement, il est accessible en vente en ligne au tarif de 18 euros, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et sincèrement, c'est un très bon moment que moi j'ai passé. J'ai pas tout lu, mais je me suis engagé à le lire intégralement. C'est vraiment une lecture plaisir.
Moi j'ai dévoré les chapitres que tu nous as envoyés.
Bon, bah voilà. Donc,
écoutez, je vous remercie vraiment.
C'est pas le masque et la plume ici, c'est pas une émission de critique littéraire, mais vous nous avez plus, monsieur Grimbert.
Ce sont des élucubrations, enfin, bah voilà.
Non, mais que ce soit votre écriture ou que ce soit ce que l'on a entendu au téléphone, c'était plutôt bien, voyez-moi.
Ce que vous avez entendu au téléphone, je bafouille un peu parce que, vous savez, à 96 ans, on n'a pas la même facilité d'élocution que lorsqu'on en avait 40.
Mais oui, je pense qu'on aimerait tous arriver à votre âge avec la même facilité.
Bon, vous voyez, moi je vais couper les morceaux où je bafouille au micro, mais je n'aurai pas besoin de vous couper beaucoup, monsieur Grimbert.
Bon. Merci également, vraiment, grandement, vos chroniqueurs, puisque...
Merci à vous.
Est-ce que vous voulez rester avec nous pour la fin de l'émission, monsieur Grimbert?
Au contraire, bien sûr.
Alors, on va écouter encore Jean-Jacques, toujours lui.
Désolé.
Il a une mission qui est de nous informer et de nous instruire. Et aujourd'hui, pour l'UFC Que Choisir, la chronique est concentrée sur les crèmes solaires. C'est bien ça?
Oui.
Bon, alors
comme
nous t'écoutons.
C'est la dernière de la saison et également la dernière avant d'aller, si on le souhaite, se dorer au soleil, même si c'est l'été déjà là. L'auto-bronzant, avec précaution. Une peau bien bronzée est un signe des vacances de distinction. Mais les rayons solaires sont très dangereux pour la peau, en réalité. Il faut donc s'en protéger lors des expositions prolongées, même si l'on a recours à un accélérateur de bronzage. C'est marrant ça, les compositions dans les alimentaires, c'est l'accélérateur de goût. Les statistiques montrent que les cancers de la peau ont triplé entre 1980 et 2018. L'exposition durable aux rayons solaires est la cause principale de cette maladie peu connue. Il est donc prudent de se préserver avec le vêtement ou une crème efficace. Mais les produits de bronzage n'apportent aucune protection contre le soleil. Tous ces cosmétiques sont plus ou moins décevants. sans présenter de risque avéré. En tout cas, il est démontré qu'ils sont moins dangereux que les ultraviolets. Pour l'usage d'un autobronzant, certaines précautions s'imposent. Les instructions d'emploi varient selon les produits. Certains doivent être rincés après quelques heures. Faire un essai sur une partie de la peau permet de vérifier l'absence d'allergie et l'effet réel, car les autobronzants n'ont aucun effet sur 10% environ de la population. Se laver soigneusement les mains après l'application et attendre qu'ils soient secs avant de s'habiller. L'effet de bronzage se dissipe de toute façon à partir d'une semaine, avec l'usure de la peau. Il est surtout préférable de choisir un produit sous forme solide, lait ou crème, et absolument pas les sprays. En effet, la composition des autobronzants présente certains dangers, comme le formaldéhyde, qu'il ne faut surtout pas respirer. Voilà.
Bon, ça donne pas envie, hein, en même temps.
Ah ouais, je suis désolé.
Bon. Mais oui, mais...
Finalement, le mieux, c'est peut-être de porter des vêtements, quand même. Hein?
C'est bien une peau bronzée, hein. C'est... Mmh. Mais bon, il faut faire attention.
Je sais que tu te promènes tout nu l'été, Jean-Jacques, mais... Donc, voilà, c'est d'autres styles, effectivement. Les naturistes doivent se protéger intégralement, j'imagine. Mais voilà. Donc, oui, l'été, faisons attention au soleil. Le capital soleil, c'est ce qu'on nous disait il y a quelques années. Certains en ont usé et abusé. Et c'est vrai que tu parlais des détections de cancer de peau. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on en détecte plus aujourd'hui ou bien est-ce qu'on en diagnostique plus?
Voilà. Ah.
C'est quand on cherche, on trouve. Probablement qu'il y a 20 ou 30 ans, on ne cherchait pas de la même manière.
Alors, juste une petite information que j'ai lue. Les cancers de la peau, notamment, apparaissent surtout aux extrémités du corps, c'est-à-dire au niveau de la tête et au niveau des pieds. Et donc, moi, qui ai peu de cheveux, j'ai un moyen, tu parlais de vêtements, eh bien, le chapeau est un excellent moyen de se protéger, des rayonnements indésirables du soleil. Le chapeau, la casquette, etc. Donc, moi, je vois souvent des personnes qui n'ont rien du tout, qui ont la tête... parce que là, en plus, le rayon du soleil arrive directement sur le crâne, et c'est dangereux. Donc, moi, j'attire l'attention. D'ailleurs, il y a des marques, que je ne citerai pas, de chapeaux, qui sont très connues, qui mettent dans leur... On parlait d'argument commercial, le fait que le chapeau peut prévenir du cancer et des maladies liées au soleil.
Est-ce qu'il y a des chapeaux climatisés?
Pas pour l'instant.
Rien ne t'empêche de mettre un truc sous ton chapeau.
Mais ça, je pense que c'est un bon conseil.
Et mettre des lunettes de soleil.
Aussi.
Alors, moi, ma grand-mère, elle mettait un mouchoir mouillé sur sa tête pour se protéger du chaud. Ça marchait bien aussi.
C'est une très bonne idée.
C'est presque la clim, hein. On n'est pas loin. Non.
Donc oui, on disait que le soleil, il peut être plaisant, mais il est devenu aussi beaucoup plus agressif qu'il n'a été. Hein. Les trous dans la couche d'ozone, c'est pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça rend le climat un peu moins docile. Mmh. Il faut vraiment se protéger. Hein, et
mais je trouve qu'on devrait retrouver, comme nos ancêtres au siècle dernier, l'ombrelle pour les femmes, c'était très joli et t'as pas besoin de te tartiner avec toutes sortes de produits qui ne sont pas forcément...
Eh bien Jacqueline, nous allons te laisser lancer la mode.
Le retour de l'ombrelle.
Mais très sérieusement, effectivement, moi l'été dernier avec mes enfants, on a visité un zoo et le parapluie nous était bien pratique pour nous protéger réellement du soleil. Hein. Parce qu'en plein cagnard, les animaux, je sais pas comment ils font, mais nous, on a du mal à supporter.
On a du mal à supporter, c'est sûr.
Oui, mais enfin, les animaux ont leur pelage.
Exactement.
Oui, absolument.
Bon. On va écouter une dernière chanson avant de nous quitter. Il s'agit de... Alors, la dernière chanson, elle n'est pas en lien avec le personnage mystère. C'est une petite chanson que je fais découvrir ou redécouvrir à chaque fois. Et cette semaine, j'ai opté pour Alain Souchon. Et si, en plus, il n'y a personne, ça va vous évoquer des choses les uns et les autres. Mais ça me paraissait une belle chanson de circonstance aussi. On se retrouve tout de suite après.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide ? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus. Si en plus, il n'y a personne. Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus.
Alain Souchon avec Si en plus il n'y a personne, une petite chanson qui nous rappelle que voilà, on a tous des croyances et j'ai envie de dire les religions monothéistes sont censées avoir le même Dieu, donc bah faut espérer que là-haut c'est la même personne qui nous attend. Hein. Jacqueline, est-ce que tu avais une petite page culturelle à nous proposer cette fin de semaine?
Pas forcément, je voulais souhaiter à tous nos auditeurs de très bonnes vacances, leur rappeler que tous les musées d'Angers, le château et autres sont ouverts pendant tout l'été, profitez-en, allez dans les jardins qui sont nombreux à Angers et aux environs, ainsi que dans toutes les expositions qui sont à votre disposition.
Et alors moi je rajoute dessus que ce sont souvent des lieux frais et donc en période très chaude, c'est bien voilà. Agréable de se réfugier dans un musée. Il ne faut pas hésiter à aller se rendre au frais, visiter les tapisseries de l'Apocalypse, Jean Lurçat, le musée des Beaux-Arts.
Enfin, tout à fait, le musée d'Angers. David d'Angers. Voilà.
Ouais, parce que Monsieur Grimbert, vous avez compris qu'on est à Angers.
Alors, c'est d'autant plus compris que le Maine-et-Loire, c'est la patrie de Joachim du Bellay.
Absolument.
Bon, ben voilà, vous. Alors, c'est une question qu'on ne vous a pas posée, ça, monsieur Grimbert. Vous vivez dans quelle région?
Pour le moment, je suis en Gironde.
D'accord. Ah, d'accord. Bon, c'est pas mal non plus.
C'est pas mal. Hein.
Les vins sont pas aussi bons que par chez nous, mais...
Quand même.
Non, mais alors après, effectivement, va falloir bien se protéger cet été contre le chaud et puis faire attention aussi à nos proches parce que là, on est quelques-uns à avoir des enfants à proximité. Puis de temps en temps, les enfants s'en vont en vacances et oublient de prendre des nouvelles, ce que je déplore un peu. Mais il faut vraiment faire attention les uns aux autres. Hein. L'été, on a le droit à une vie sociale également. Monsieur Grimbert, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaitiez partager avec nous?
Je crois qu'on s'est tout dit.
Surtout l'essentiel, en tout cas.
Nous, on vous remercie sincèrement parce que, effectivement, votre ouvrage aura vraiment nourri notre curiosité d'un monde d'antan et on le recommande vivement à nos auditeurs. Je redis les choses. Une jeunesse fracassée qui est éditée aux éditions Jet d'encre et au tarif modeste de 18 euros. Hein, ça paye à peine le papier, cette histoire. Alors, on l'a pas dit, mais c'est un ouvrage de 169 pages, si je dis pas de bêtises, et les parties se lisent indépendamment les unes des autres. Donc,
c'est des chapitres de sa vie. Hein,
c'est aussi très facile à lire pour ça. Hein. Je vous félicite sur la formule parce que du coup, même si on a envie de lire la suite, on n'est pas piégé dans l'intrigue. Hein. C'est vraiment très agréable à lire.
Et merci à la dame qui l'a accompagné.
Alors, je voulais vous demander, est-ce que le contenu de l'aide Le contenu de l'émission sera retransmis.
Alors, vous nous permettez de rappeler aux auditeurs que effectivement, on peut télécharger l'émission sur le site internet de Radio G, donc www.radio-g.fr. Et effectivement, dans l'émission Il est l'heure, Monseigneur, vous pourrez écouter cette émission, mais toutes les précédentes également. Donc, nous, on va la partager sur nos réseaux sociaux. Hein, et puis, on va essayer de la faire connaître pour que les gens aient la curiosité d'aller vous lire, Monsieur Grimbert. D'accord ?
Je crois que vous avez des connexions sur toute la France.
Alors,
par Internet, toujours, oui.
On peut même dire qu'on est à l'international par Internet.
Si on va sur Internet à l'autre bout du monde et qu'on tape Radio G, Angers, par exemple, il n'y a pas de problème à Tahiti ou aux États-Unis. On peut nous lire, voilà, on peut nous entendre.
C'est aussi l'occasion de rappeler à nos auditeurs que Radio G est une radio associative. Et donc, on fait partie d'un réseau de radios associatives. Et à ce titre, on a l'occasion de nous écouter ailleurs, parfois qu'à Angers. Donc, dans tous les cas, on espère nous vous retrouver nombreux l'année prochaine. On reprendra dès septembre, la date reste à préciser.
Oui. Je vous remercie et je remercie vos chroniqueurs également.
Bon. Merci à vous.
Eh bien, merci. Jean-Jacques, Jacqueline et Marc, on se retrouve l'année prochaine pour
avec grand plaisir.
Bon, voilà. Donc, on fait une promesse aux auditeurs aujourd'hui.
Ça sera quand?
Alors, au mois de septembre, on va repréciser la date près de la radio. Mais dans tous les cas, on va rester sur la même fréquence, une émission tous les 15 jours le lundi. Ouais.
Je ne manquerai ça pour rien au monde.
Ouais, avec plaisir, Jacqueline.
Bon été à tous.
Bon, dans tous les cas, bonne semaine à tous et on se retrouve dans 2 mois pour, j'espère, une nouvelle saison de Il est l'heure, Monseigneur.
Ouais. Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Bonne semaine.
On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes de Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes.
Radio G. www.radio-g.fr